Laudetur Jesus Christus.
Volodymyr Zelensky favorable à une trêve sur mer et dans les airs avec la Russie afin de discuter d'une paix durable sous le leadership de Donald Trump. Le président ukrainien se dit prêt également à signer un accord sur les minerais avec les États-Unis. La corruption, l'incurie, autant de mots contre lesquels les Serbes et les Grecs, chacun à leur manière, réagissent. Après des semaines de manifestations à Belgrade, le Parlement est sous tension, l'opposition tentant de faire obstruction. À Athènes, les députés ont eu largement adopté la création d'une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités exactes de l'accident de train d'il y a 2 ans et qui avait causé la mort de 57 personnes. Les pays arabes adoptent un plan de reconstruction de la bande de Gaza. 53 milliards de dollars sur 5 ans sont prévus. Le Hamas est mis de côté. L'autorité palestinienne devrait faire son retour à terme. Entrée dans le carême aujourd'hui avec le mercredi des cendres, un temps de l'espérance qui conduit vers Pâques. Nous en parlerons dans notre dossier avec un frère carme du couvent d'Avon, près de Paris.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Avant de développer ces titres, faisons un point sur la santé du pape, toujours hospitalisé pour une pneumonie affectant ses 2 poumons. Son état clinique est stable. Il n'a souffert d'aucune crise respiratoire. Hier, le pronostic reste réservé, même si le Saint-Père est resté toute la journée alerte et conscient et qu'il a collaboré pleinement aux soins. La ventilation mécanique non invasive a repris hier soir pour la nuit. On vient d'apprendre par ailleurs par la salle de presse du Saint-Siège que le pape s'est bien reposé cette nuit et qu'il s'est donc réveillé un peu après 8 heures. À la une de l'actualité internationale, toujours l'Ukraine, dont le président est prêt à signer l'accord cadre sur l'exploitation des minerais de son pays avec les États-Unis, avec qui il souhaite arranger les choses. Après l'altercation de vendredi dernier à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky hier a surtout proposé une trêve avec la Russie afin de débuter des discussions sur une paix durable sous le leadership de Donald Trump. Les précisions à Kiev de Bastien Bory.
À défaut de l'accepter sur terre, il la propose sur mer et dans les airs. Embarqué dans une lutte pour sa survie politique en Ukraine, Volodymyr Zelensky est obligé de céder du terrain à Donald Trump. Il se dit prêt à stopper les opérations maritimes et aériennes de son armée si la Russie en faisait de même. Destiné à jouer la montre, cette déclaration a été préparée. Quelques heures avant, les forces ukrainiennes effectuaient leurs frappes les plus profondes en territoire russe depuis le début de cette guerre. La cible, la raffinerie de pétrole d'Oufa, capitale de la République russe de Bachkirie, à 1300 km des frontières de l'Ukraine. De quoi envoyer un signal autant au Kremlin qu'à la Maison-Blanche. Plus près des lignes de front, les Ukrainiens ont repris mardi un village près de Pokrovsk où les Russes ont dû battre en retraite. Des Russes qui n'ont avancé que d'une dizaine de kilomètres en moyenne dans le Donbass en 2 ans. Et la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev, décrétée hier par Donald Trump, ne changera pas grand-chose à cette lente guerre d'usure. L'Ukraine dépend moins de cette aide qu'au début du conflit en 2022. Le pays est désormais capable de produire de lui-même 3 millions de drones militaires par an. Bastien Bory à Kiev pour Radio Vatican.
Le président belarusse, soutien d'effectifs de Vladimir Poutine, propose ses bons offices. Minsk est prêt en effet à accueillir d'éventuels pourparlers de paix sur l'Ukraine. Ce début de réconciliation avec le président américain a été salué par le président français. L'Allemagne, qui n'a pas encore de gouvernement, envisage tout de même une rallonge à son aide à l'Ukraine de 3 milliards d'euros. Quant à l'Union européenne, elle tient un sommet à partir de demain pour mettre en œuvre, entre autres, les propositions formulées hier par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle a évoqué 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe pour faire face à la Russie et soutenir les Ukrainiens. L'Ukraine, il en était question dans le discours que Donald Trump a tenu hier soir devant le Congrès. Le président américain est revenu très largement sur sa politique économique, sur l'augmentation des droits de douane notamment. Il a aussi réitéré ses revendications envers le Groenland que les États-Unis prendront d'une manière ou d'une autre, a-t-il affirmé, ou envers le canal de Panama. Donald Trump a évoqué aussi le projet d'un immense gazoduc en Alaska qui devrait livrer du gaz au Japon, à la Corée du Sud et à d'autres pays. Ce serait le plus grand gazoduc au monde, a-t-il souligné. Maintenir la population palestinienne dans la bande de Gaza, telle est l'ambition de l'Égypte. Hier, au Caire, un sommet des pays de la Ligue arabe était organisé pour contrer la proposition américaine de déporter la population gazaoui dans les pays voisins. Olivier Bonnel.
Oui, Xavier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, hôte du sommet, a présenté un plan de reconstruction de la bande de Gaza, alternative aux ambitions de Donald Trump, qui avait proposé, souvenez-vous, de placer l'enclave palestinienne sous contrôle américain et d'en faire une riviera. Le plan du Caire est clair, pas d'évacuation de la population palestinienne de Gaza, mais la formation d'une commission neutre sous l'égide de l'autorité palestinienne pour administrer la reconstruction du territoire. L'Égypte propose notamment de former les futures forces de l'ordre palestiniennes à Gaza, mais aussi d'y créer des zones d'habitation temporaires comme des préfabriqués. Les engins de chantier viendraient d'ailleurs du territoire égyptien. Coût annoncé 53 milliards d'euros sur 5 ans. Les pays de la Ligue arabe qui ont convenu de créer un fonds destiné à financer la reconstruction de la bande de Gaza et qui ont dénoncé dans le communiqué final de ce sommet toute tentative odieuse de déplacer le peuple palestinien ou d'annexer une partie des territoires palestiniens occupés qui plongerait selon eux la région dans une nouvelle phase de conflit. Mais ils se sont bien gardés d'attaquer frontalement Donald Trump. Au contraire, le président américain est capable de faire revenir la paix dans la région, a insisté Abdel Fattah al-Sissi, en prenant comme modèle à suivre le traité de paix signé entre Israël et l'Égypte. C'était en 1979.
Olivier Bonnel et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est prêt à ce que son gouvernement revienne à terme dans la bande de Gaza. Un gouvernement de techniciens devrait toutefois gérer le territoire pendant plusieurs mois auparavant. Le Hamas serait ainsi mis sur la touche. Ce sommet fut aussi l'occasion pour le président libanais de rencontrer pour la première fois son homologue syrien. Joseph Aoun s'est entretenu avec Ahmad al-Sharih. Les deux hommes ont parlé de la nécessité notamment de contrôler leurs frontières communes. La corruption des autorités au cœur des manifestations de ces dernières semaines en Serbie, où le mécontentement toujours visible dans la rue s'est déplacé dans l'enceinte du Parlement. Dans une atmosphère électrique, le Parlement serbe s'est réuni hier pour sa session de printemps, mais de nombreux incidents ont éclaté. Retour sur ces derniers événements avec, à Belgrade, Laurent Rui.
Ce député de la majorité est inaudible. L'opposition bloque l'Assemblée, mais le pouvoir essaye à toute force de se maintenir. Député d'opposition du Front des Verts et de la Gauche, Radomir Lazovic harangue la foule, massée devant le Parlement.
Sans le soutien des citoyens, de la société civile, des experts, des médias, tous ceux qui ont la liberté dans le cœur, on ne pourra rien faire. Il ne doit y avoir qu'un seul ordre du jour à l'Assemblée aujourd'hui, accepter toutes les demandes des étudiants.
Dans l'hémicycle, l'opposition a lancé des fumigènes, vidé des extincteurs sur deux ministres. Certains en sont venus aux mains. Dehors, la foule jette des œufs sur le bâtiment, invective le gouvernement, voleur, assassin, démission. Pour ce manifestant, le président est responsable de tous les maux.
Le Parlement exécute le bon vouloir d'un seul homme. On doit se battre, on doit mettre son pouvoir à terre.
À une fenêtre, la bannière à la main ensanglantée des protestataires donne l'impression que le Parlement a déjà basculé. En ville, on ne parle que des scénarios sur la fin du président Vučić. Il est pourtant toujours au pouvoir. La situation est de plus en plus imprévisible. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
Et en fin de journée hier, le Parlement serbe n'avait réussi à voter aucune loi prévue par la majorité en raison donc de l'obstruction de l'opposition. Les travaux parlementaires reprennent aujourd'hui à 10h et l'opposition a fait savoir qu'elle tenterait à nouveau de les bloquer. C'est dans une atmosphère beaucoup plus sereine que les députés grecs se sont réunis hier sur fond de contestation populaire et de manifestation nationale. À l'origine de la colère des Grecs, l'accident de train de février 2023, 57 personnes essentiellement des étudiants étaient morts dans la collision entre un train de marchandises et un train de passagers. Les parlementaires ont adopté hier la constitution d'une commission d'enquête sur un ancien secrétaire d'État mis en cause pour sa gestion de la catastrophe. À Athènes, les détails d'Alexia Kefalas.
Après les marées humaines manifestant dans plus de 200 villes de Grèce vendredi dernier, la tension est à son maximum à Lavoulie, le Parlement. Le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis est mis en cause sur la gestion de la pire catastrophe ferroviaire du pays qui a fait 57 morts en février 2023. Hier soir, donc à 277 voix sur 300, les députés se sont massivement prononcés en faveur de la constitution d'une commission parlementaire pour enquêter sur les responsabilités éventuelles pénales de Christos Triantafylopoulos, un ancien secrétaire d'État au gouvernement actuel. actuel. Il est soupçonné de manquements à ses devoirs pour avoir autorisé le nettoyage rapide du site de l'accident, ce qui a entraîné la destruction de preuves essentielles pour la justice. Car 2 ans après cette tragédie, les familles des victimes font toujours pression pour comprendre pourquoi leurs proches sont morts. Ces familles sont soutenues par des dizaines de milliers de Grecs, alors que 72% d'entre eux estiment que le gouvernement a tenté de couvrir l'affaire. Aujourd'hui, la bataille continue. L'opposition de gauche compte bien demander des explications en déposant une motion de censure, alors que les syndicats appellent encore à manifester devant la Voulie. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Conséquence des récents combats dans l'est de la République démocratique du Congo, près de 80 000 personnes ont fui. Elles ont trouvé refuge dans les pays voisins, essentiellement le Burundi. C'est ce qu'annonce le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR. Mercredi des cendres, début du carême pour les catholiques, c'est le début de la montée vers Pâques. Dans son message de carême intitulé « Marchons ensemble dans l'espérance », le pape François a lancé 3 appels à la conversion que la miséricorde de Dieu adresse à tous, en tant qu'individu comme en tant que communauté, le pèlerinage, la synodalité et l'espérance. Arrêtons-nous ce matin sur ce dernier aspect au cœur de cette année jubilaire. L'espérance, donc, pour le souverain pontife, elle est l'encre de l'âme. Elle n'est pas une simple aspiration personnelle, mais pousse à agir. Nous en parlons avec le frère Carme, Robert Arquès du couvent d'Avon, au sud de Paris. Il nous explique tout d'abord comment vivre pleinement ce temps.
Le temps de l'espérance, on le vit pleinement avec la foi et la charité. L'espérance, c'est une des 3 vertus théologales. Je crois qu'il faut tenir les 3 ensemble, foi, espérance et charité, foi, espérance et amour. Et on ne peut pas, je dirais, honorer l'une sans honorer les 2 autres. Servir l'une, être vivant vraiment, je crois, pour un chrétien, c'est de vivre de foi, d'espérance et de charité. Alors effectivement, le jubilé de 2025 met l'accent sur l'une des 3, l'espérance, mais il n'est pas interdit de s'appuyer sur les 2 autres. Et je crois qu'on peut vivre pleinement l'une avec les 2 autres, à l'aide des 2 autres.
Est-ce que cette espérance est une démarche volontaire ou bien est-elle donnée par Dieu ?
L'espérance est un don de Dieu et donc je ne pense pas qu'on puisse faire semblant d'espérer si on n'a pas au fond de soi ce lien avec le Seigneur. Un lien que l'on cultive, qui se crée dans la prière, dans le dialogue avec Dieu. Et au-delà de toutes les épreuves que l'on peut traverser, c'est Dieu qui me donne d'espérer en lui et aussi dans mes frères, d'une manière moindre, parce que c'est Dieu qui est Dieu. Mes frères, ben, je suis appelé à les aimer, bien sûr.
Le carême, en cela, nous permet d'approfondir cette espérance ?
Oui, le carême permet... Toutes les lectures liturgiques, les lectures de la messe tous les jours sont des appels à la conversion, hein, pour dire les choses rapidement. Mais se convertir pourquoi ? Se convertir pour aller vers Dieu, ce Dieu dans lequel nous croyons qu'il est vivant pour l'éternité, qu'il est la vie elle-même. Et donc la source de cette espérance, c'est cette foi, cette croyance, ce lien avec le Dieu vivant.
Quelle est la dimension de l'espérance ? C'est une dimension purement individuelle ou bien est-ce qu'elle a une dimension qui est également communautaire ?
Oui, en christianisme, tout se tient. La personne individuelle existe vraiment, mais on ne vit pas tout seul, on n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien avec des frères et des sœurs et donc ça a une dimension ecclésiale, communautaire, évidente. Il faut marcher, voilà, en quelque sorte, bon, on marche avec ses 2 pieds. Alors, il y a notre personne individuelle, bien sûr, mais il y a aussi l'Église, il y a les frères, les sœurs.
Alors, que nous pousse à faire ou que devrait nous pousser à faire cette espérance ?
Eh bien, à vivre aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, chercher à la connaître, à la vivre. En gros, la volonté de Dieu, c'est d'aimer lui et d'aimer son prochain, de faire le bien autour de soi, et d'être en union avec Dieu, en priant Dieu, en l'honorant. Là, ce sont des choses assez simples. Alors, dans le carême, bon, traditionnellement, c'est ces 3 dimensions de la prière, du don, charité, enfin voilà, des actes de miséricorde. Le carême insiste là-dessus, c'est comme un... Pour moi, le carême, c'est comme un moment un peu intense, mais en fait, ce que l'on vit dans le carême, on est appelé à le vivre tout le temps, d'une certaine manière. Jeûne, prière, charité, voilà, c'est un condensé d'une vie baptismale.
Le carême temps de l'espérance, le frère Carme Robert Arques du couvent d'Avon était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook ou notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.